Là, je me suis dit, voilà, la reine de la compétition dans le désert, c'est le Paris-Dakar. Et à l'époque, c'était 99. Et pendant 12 mois, je me suis dit, bah, à peu près, voilà, pourquoi pas moi? Pourquoi j'irais pas, moi, un petit mécano dans le 11e, j'arriverais pas à faire un Paris-Dakar. J'étais tellement loin de m'imaginer que j'avais éventuellement les capacités et je pouvais aussi m'octroyer le droit de penser que j'allais être sportif moi-même. J'ai jamais imaginé jusqu'à l'âge de 28, 27, 28 ans, quoi. Donc, et c'est vrai que, en fait, les barrières, on se les met nous-mêmes. Et tant qu'on n'essaie pas de s'en approcher et puis ensuite d'essayer de les ouvrir, personne ne va le faire à ta place. C'était impossible à 14 ans de s'imaginer que j'allais pouvoir faire de la mécanique, j'allais pouvoir faire de la compétition, j'allais un jour faire un Dakar. C'était impossible. C'était impossible d'imaginer que j'allais pouvoir peut-être un jour gagner une spéciale d'un Dakar. C'était impossible de même savoir que j'allais gagner ma vie avec cette moto, avec ce sport et avec ce Paris-Dakar. C'était impossible d'imaginer que j'allais gagner un Dakar un jour. Donc imagine, j'en ai gagné 5 en moto. En une vingtaine d'années, j'ai fait 13 podiums.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 4 avec Olivier Garibal, vous ne le savez peut-être pas encore, mais on ne peut pas vraiment me qualifier de grande sportive. Néanmoins, les sportifs me fascinent. Il y a 2 semaines, je vous avais fait un petit teasing sur mon compte Instagram « Pourquoi pas moi podcast » de ce nouvel épisode en vous montrant les coulisses de cette interview avec une vue sur les pistes de ski. J'ai profité de ma semaine de vacances en Andorre pour interviewer Cyril Després. Comme vous aurez pu l'entendre dans ses citations, Cyril a un parcours hors norme. Après des études de mécanicien, il arrive à financer sa participation au Dakar, la course la plus difficile au monde. Après 16 participations à moto, il se lance un nouveau challenge en décidant de passer à la voiture. À 46 ans, une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Je ne vous en dis pas plus, je vous promets juste l'histoire d'un homme incroyable avec une gentillesse et une humilité rares. Bienvenue dans l'univers de Cyril Després. Bonjour Cyril.
Salut.
Alors pour commencer, je vais te demander de nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît.
Alors, c'est un casque. J'ai été pilote de moto et depuis maintenant 5 ans, je suis pilote automobile. Et en fait, c'est le premier casque que j'ai eu pour faire cette transition de ma passion de la moto, de mes 15 Dakar en moto et de mon premier Dakar en auto. Donc c'est un casque forcément qui porte les couleurs de mon partenaire Red Bull qui me suit depuis pas mal d'années maintenant, 13-14 ans. Et ouais, c'était quelque chose d'important parce que j'ai commencé la moto par passion, j'ai fini la moto du jour au lendemain.
Et... Ouais, justement, c'était une passion depuis toujours. Est-ce que quand tu étais petit, tu te disais je serais champion de moto?
Ah non, non, c'était juste impossible d'imaginer que j'aurais la carrière que j'ai eue en moto. Et je regardais les autres faire de la moto dans mon petit village au sud de Paris, à côté de Fontainebleau. Et en fait, j'ai eu de la chance un jour de pouvoir m'acheter une moto avec l'argent de ma communion.
Ouais.
Je voulais pas de cadeau, je voulais juste quelques petites enveloppes.
T'avais quel âge ?
13 ans.
Ouais.
Ouais. Et donc j'ai commencé la moto comme ça avec un ami de mon papa. On a pris sa remorque, sa voiture avec le crochet d'attelage. On a été chercher une moto d'occasion que j'avais trouvée dans les magazines.
Et tes parents, ils étaient d'accord ? Parce que moi, mon fils, il me dit demain, je vais acheter une moto. Je suis là, oh ouais.
Bah, en fait, ils ont bien vu que c'était un peu plus qu'une passion.
Ouais.
C'était vraiment une direction de ma vie, en fait. Hein. Depuis 9-10 ans, je regardais les magazines. Je voulais aller voir les compétitions en tant que spectateur seulement. Et donc, ils se sont dit, bon, il a sans doute trouvé sa voie. Donc, ils n'ont pas eu trop d'appréhension. Ils ont vu que je gérais pas mal mes affaires, nettoyer les casques, les bottes, nettoyer la moto, la préparer. Donc,
c'était du motocross ?
C'était du trial, en fait. Donc, dans la forêt de Fontainebleau, il y a quand même pas mal d'escalade, mais il y a aussi un petit peu ce qu'on appelle du trial. Donc, c'est des motos qui montent sur des obstacles.
Okay.
Et le but est de monter sur des obstacles sans mettre le pied par terre. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas vite, qui ne fait pas de bruit, qui est assez peu coûteux dans le motorsport.
Ouais.
Et donc, j'ai fait ça pendant quasiment 13 ans, jusqu'à 26 ans.
Et qu'est-ce qui s'est passé à 26 ans ? Quel a été le virage ?
Le virage, déjà, c'est devenu tellement fort comme passion que je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier.
Ouais.
Donc, pas de devenir pilote, mais devenir mécanicien. Donc, j'ai fait un CAP, un BEP, j'ai passé un bac pro, je suis parti sur Paris en alternance pour travailler une semaine dans une entreprise, dans un garage Honda et une semaine à l'école. Et en fait, à 26 ans, j'ai eu la chance de travailler dans un magasin de motos qui préparait des motos dans Paris.
Okay.
Pour partir dans le désert. Et là, ça a été un petit peu le déclic de me dire, waouh, ça doit être génial de faire ça. Mais bon, 26 ans, mécanicien, 1500 euros par mois. Comment tu vas pouvoir partir, même faire seulement un rallye, un petit rallye, un rallye de Tunisie ?
Parce qu'un petit rallye, par exemple, Tunisie, ça coûte combien ?
À l'époque, ça coûtait peut-être 5000 euros. Donc, il fallait trouver une moto, se faire prêter une moto d'un copain, la modifier, la préparer. Donc ça, je savais le faire. Mais en fait, le déclic, il s'est fait puisque mon patron qui faisait des compétitions s'est blessé. Il s'est fait mal à l'épaule, une luxation. Et donc, de mécanicien, pendant 3-4 mois, il m'a dit, écoute, si tu pouvais organiser et devenir le chef d'atelier, ça m'arrangerait. Donc, j'ai pris un peu de galon, ouais. On va dire.
T'étais content à ce moment-là ?
Ben ouais, c'était déjà super. Je pensais pas au sport ni à la compétition.
C'était une preuve de confiance.
Exactement. Mmh. Et puis, j'avais des mécaniciens qui étaient plus âgés que moi. Donc, c'était plutôt bien accueilli au sein de l'équipe de mécaniciens et puis au sein du magasin pour lequel je travaillais. Et en fait, quelques mois après, je pense que j'avais fait du bon boulot. J'avais réussi à le remplacer. Il se remettait tranquillement de son épaule. Et là, le déclic, c'est un jour, il me dit, écoute, dans un mois et demi, je devais partir sur le rallye de Tunisie en avril 98. C'est juste pas possible. Je suis pas remis, je suis pas en forme. Et pour te remercier des services que tu as fait pour l'entreprise, je vais te prêter ma moto. Je vais te prêter des pneus que j'avais, des bidons d'huile. Il me dit, si jamais tu arrives à trouver 1200 euros pour partir et payer l'engagement, vas-y, c'est ton cadeau pour m'avoir remplacé. Et là, le début de l'aventure
Tu t'es débrouillé, tu les as trouvés, tes 1200 euros.
Ouais, ouais, j'ai fait un peu les fonds de tiroir et puis j'ai commencé à trouver des petits partenaires. Alors bon, c'était... je faisais un peu de compétition régionale, nationale en trial, mais je n'avais jamais vraiment éclos au niveau international. Donc, dans la région, trouver 200-300 euros par-ci, par-là, je suis parti avec une dizaine de stickers de petites entreprises locales. Et en fait, j'ai fait mon premier rallye comme ça, Rallye Tunisie 98, et j'ai fini. Donc, c'était à la fois...
Tu as fini 13e, c'est ça ?
Exactement. Ouais. C'était une super découverte parce que c'était la première fois que je partais en dehors de l'Europe. Je découvrais l'Afrique, la Tunisie, les Tunisiens, les dunes.
Ouais, t'avais jamais du coup, forcément, on ne peut pas s'entraîner en France sur de la dune. Quoi.
Et encore moins sur Paris, hein, tu peux t'imaginer. Voilà, c'était quelque chose d'incroyable et ça m'a marqué. J'ai envie de dire, ça m'a marqué à vie puisque un an après... on s'est dit, maintenant, il faut passer le pas supérieur. Je préparais des motos pour des Parisiens qui partaient sur leurs vacances, qui partaient faire des raids, des balades, des compétitions. Et donc, là, je me suis dit, voilà, la reine de la compétition dans le désert, c'est le Paris-Dakar. Ouais. Et à l'époque, c'était 99 et pendant... pendant 12 mois, je me suis dit, à peu près, voilà, pourquoi pas moi ? Pourquoi j'irais pas, moi, un petit mécano dans le 11e, j'arriverais pas à faire un Paris-Dakar, hein.
Là, il y avait la problématique des sous. Hein.
Forcément.
Ouais. Ouais. Parce que là, ça coûte combien de faire un Paris-Dakar ?
C'est pareil, à l'époque, on est parti en pur amateur, ouais. C'est-à-dire qu'avec une tente, avec une caisse, ce qu'on appelle une malle en fer, où on met nos outils, nos barres de céréales, nos chaussettes, notre brosse à dents, et puis pas grand-chose d'autre. Hein. Faut être, on a 60 kilos de matériel pendant 3 semaines. Et ça m'avait coûté aux alentours de 15 000 euros, donc il fallait les trouver.
Ouais.
15 000 euros à l'époque, c'était un an de salaire, énorme. Donc ouais. C'était énorme.
Mais comment tu as fait pour les trouver ces...
Alors, c'était un petit coup de chance aussi. Les années 2000, on s'est dit, tiens, il va y avoir le changement 99-2000. Peut-être qu'on peut se servir de tous les gens qui se font des petits cadeaux dans les entreprises, au sein de la famille. Donc, on a trouvé... Des petits producteurs de vin, ouais. Dans le sud de la France, à Bordeaux et à Chablis. On a acheté ces bouteilles de vin avec les quelques sous qu'on avait. Je dis « on » puisque je suis parti avec un copain qui était de Béziers et on s'est dit « on va mutualiser nos forces
ouais. ». Lui aussi, c'était son rêve.
Lui, c'était un rêve aussi. Ouais. Et donc, ça faisait quelques années qu'on se connaissait. Donc, on a acheté 6000 bouteilles de vin.
Ouais.
Lui en avait 3000, moi 3000.
C'était un pari quand même, parce que si vous ne les vendiez pas...
Énorme. Ouais. Et on a fait des boîtes de 3 bouteilles avec un sticker en marquant « Aidez-nous à réaliser notre rêve, Cyril Després, Michel Gau, Dakar 2000, suivez-nous. »
Génial.
Et on a réussi à vendre. Alors, on était... pas trop mauvais en moto, par contre, au niveau du marketing, au niveau de la vente, on était un peu moins fort. Donc, on a mis quasiment 11 mois pour vendre ces 1000 coffrets de vin.
Okay.
Et on est parti sur notre premier Dakar, donc, qui était un Dakar un peu spécial. Les vérifications des motos et du matériel se faisaient à Paris. Tout le matériel était embarqué au Havre pour aller directement à Dakar. Et la course commençait après le 1er janvier de l'an 2000, normal, ouais. Commencer à Dakar pour traverser toute l'Afrique d'ouest en est,
okay.
Et pour finir en Égypte au Caire au pied des pyramides. Donc,
magique.
Ouais, magique, ouais. Magique. C'est encore assez frais dans ma mémoire tellement c'était une sensation incroyable d'arriver au pied de ces pyramides.
Et à quel moment tu as su que vous aviez assez d'argent pour pouvoir partir?
La veille, ouais. L'avant-veille peut-être du départ, ouais. Non, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Les derniers coffrets se sont vendus sur des marchés de Noël où on avait fait des photos, où on allait parler aux voisins, aux amis, à la famille. Je veux dire, il n'y a pas un membre de ma famille qui n'a pas réussi à vendre au moins 10 ou 15 coffrets.
C'est comme les tickets de Tombola.
Exactement, tout le monde avait son lot et tout le monde a eu un rôle primordial pour pouvoir partir parce que quand les 1000 coffrets sont arrivés, c'est à peu près comme, je ne sais pas, une vingtaine de caddies de supermarché remplis de bouteilles de vin. Je me suis dit, et qu'est-ce que je fais là? On est en février 1999. Je dis, maintenant, si je veux y aller, il faut se préparer un peu physiquement. Il va falloir penser à préparer les motos. Mais
parce que
là...
pour faire la moto, il faut être sacrément musclé.
Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, il faut essayer d'être endurant surtout. Donc, ouais. Ça ne sert à rien d'être le plus musclé de la plage l'été. Mais par contre, d'avoir de l'endurance au niveau des bras, au niveau des jambes, ouais. Pour tenir approximativement entre 8 et 12 heures sur la moto tous les jours. Donc, et un Dakar... de l'époque, c'était 17-18 étapes, donc ouais, c'était long, hein. C'était ouais. Très très long. Mais c'était bon, c'est ce qu'on voulait aussi, on voulait payer le prix, mais on voulait en avoir pour notre argent, donc on voulait vraiment faire des kilomètres.
Ouais. Hein. C'est... Ouais. Et là, tu as fini 16e.
Ouais, 16e.
Sur combien de personnes qui font
Dakar ?
On
était beaucoup, on était 160-170 motos, donc ouais. C'était déjà presque un exploit. Et ouais. Ça m'a un petit peu aidé pour la suite, parce que je devais être le 2 ou 3e français. Il y avait le Dakar réuni entre 10 et 25 nationalités. C'est quand même une épreuve de moto légendaire créée par Thierry Sabine. Et donc, il y a toujours de l'engouement, un peu moins au jour d'aujourd'hui en France, mais dans des pays en Amérique du Sud, pendant 10 ans, on a été des héros comme si on était des footballeurs. C'était incroyable. Donc,
vous prenez un petit peu plus de risques que les footballeurs ?
Un petit peu plus, mais ouais, peut-être un peu plus de plaisir aussi. Puis c'est un sport individuel où il faut pas seulement être rapide, il faut savoir prendre soin de soi, pas tomber, pas faire d'erreurs de navigation, pas se perdre dans le désert. Il faut essayer de pas abîmer la moto ou trouver des solutions pour la réparer rapidement. Et puis il y a aussi pas mal de stratégies pour essayer de réussir à faire un bon résultat.
Le fait que tu aies fait des études de mécanique, j'imagine que ça t'a aidé.
Ouais, ça m'a aidé énormément. Je me suis retrouvé plusieurs fois durant ma carrière à pouvoir entendre un bruit moteur et me dire là, il reste 100 km, Cyril, vaut mieux ralentir un peu, de finir la journée, de pas tout casser. Je perdrai quelques minutes si je ralentis. Si je continue comme ça, je risque de casser le moteur. Donc, il y a plein de petites choses qui m'ont servi pour les suspensions, pour les choix de pneus. Et je pense que ouais, sans mes études et sans ma connaissance mécanique, j'aurais peut-être pas réussi aussi rapidement.
Ouais. Et quand tu as fait ton premier Dakar, donc ta famille t'a soutenu, mais comment tes parents, ton entourage proche, ils ont réagi? Ils n'étaient pas inquiets? Ils te soutenaient?
Non, j'ai tout de suite vu, et puis eux aussi ont tout de suite vu que j'étais quand même motivé. Je veux dire, j'étais déterminé à faire ce que j'avais envie de faire, de me donner les moyens de le faire. J'habitais dans un petit 15 mètres carrés à Paris à cette époque-là, donc il n'y avait rien qui me prédestinait à devenir ni pilote, ni sportif, ni vainqueur.
Parce que tu n'étais pas sportif du tout
Je faisais du sport, mais voilà, les journées étaient bien remplies. J'attendais le week-end pour aller faire des balades.
Mais tu n'étais pas un grand sportif où tu...
Non, j'ai appris par la suite. J'ai vu qu'il y avait quand même certains risques dans la moto et que une des seules solutions, c'était de me préparer physiquement, de passer des heures dans une gym, de faire des longues sorties en vélo, en ski de randonnée ou en ski de fond l'hiver, de faire plein de choses pour justement être endurant et de pouvoir tenir le coup sur la moto pendant autant de jours.
Il n'y a personne qui t'a dit « mais t'es fou de le faire, tu mets ta vie en danger ».
Il y a peut-être du monde, mais je ne les ai pas écoutés. Ouais. Donc, je ne me rappelle pas de ces gens-là. Ouais. Vraiment.
On oublie. Ouais. Et avant qu'on parle de la suite du Dakar, quand tu étais petit, donc t'as grandi donc à Fontainebleau, enfin dans le coin de Fontainebleau. Ouais. Quel type de petit garçon t'étais?
Assez bricoleur, hein. J'étais toujours avec un marteau, un tournevis, une clé, des cailloux, une cabane. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment quelqu'un qui passait beaucoup de temps à l'extérieur. Donc, je savais que j'avais besoin de faire quelque chose avec mes 10 doigts, ça c'était sûr. Je savais que j'étais plutôt attiré par la nature, la végétation, les balades. Je pense que j'ai pas réellement beaucoup de souvenirs des bandes dessinées ou des dessins animés que j'ai pu voir ou lire pendant toutes ces années. Ouais. J'étais vraiment très très souvent à l'extérieur.
Et tes matières préférées à l'école, c'était quoi?
Il y avait le sport, il y avait un peu l'espagnol, il y avait un peu les langues, mais j'ai jamais été très très studieux. Jusqu'au jour où je suis arrivé dans un domaine qui me plaisait, la mécanique moto, et là je pense que j'étais pas le premier de la classe, mais j'étais pas loin derrière quand même.
T'étais dans ton élément. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient restaurateurs, c'est ça?
Ouais, mes parents étaient restaurateurs. On a juste eu la chance que dans cette région de Nemours, exactement où on habitait, on avait des amis qui de mes parents qui avaient un fils qui était professionnel de moto trial, donc un pilote professionnel. Et donc, c'était mon idole, c'était mon héros. Donc, lui vivait de sa passion. C'était le seul sportif. Il faut revenir dans les années 80. Des sportifs, il y en avait peut-être 4 fois moins que maintenant en France. Donc, dans la région, à 50 km à la ronde, il y avait un sportif très connu au niveau national et international. C'était lui, Pascal Couturier, donc, avec qui je suis toujours en contact très régulièrement, que j'ai eu la semaine dernière d'ailleurs. Donc, voilà,
Qu'est-ce qu'il dit quand il voit ton parcours?
Ah, il est super fier. On s'était pas eu après ce Dakar, avec l'aventure qu'on a eue et avec les jeunes cette année du team Red Bull Junior Off-Road. Et donc, il est super fier parce que la toute première petite moto qu'on a eue à la maison qu'il nous a prêtée, c'était sa première moto. Et bon, c'était magique. Donc, lui a atteint un niveau assez, assez élevé et il m'a toujours dit que je l'avais dépassé. Donc, c'est très sympa, mais j'ai quand même plutôt tendance à regarder plutôt devant que de regarder derrière. Donc, À la maison, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas à regarder mes trophées, à les compter, à les briller, à les briquer. Donc je regarde toujours plus devant. Mais voilà, la question est sympa. C'est vrai que j'ai toujours, tout de suite senti très jeune qu'il fallait que je m'évade. Ouais. Je n'étais pas fait pour rester entre quatre murs.
À l'école
non, ouais. non.
Et tu disais, quand je serais grand, je ferais tel métier, ou ce n'était pas forcément?
En fait, je pensais que j'allais devenir mécanicien dans une équipe sportive de moto. Donc, peut-être sur la piste, peut-être en motocross, peut-être en rallye raid, peut-être en trial, je ne savais pas. Mais j'étais tellement loin de m'imaginer que j'avais éventuellement les capacités et je pouvais aussi m'octroyer le droit de penser que j'allais être sportif moi-même. J'ai jamais imaginé jusqu'à l'âge de 28, 27, 28 ans, quoi. Donc, et c'est vrai que, en fait, les barrières, on se les met nous-mêmes. Et tant qu'on n'essaie pas de s'en approcher et puis ensuite d'essayer de les ouvrir, personne ne va le faire à ta place. Je regrette pas de l'avoir poussé très franchement en 2000 et d'avoir fait mon premier Dakar. Et puis,
qu'est-ce qui s'est passé du coup après, suite à ton premier Dakar? Tu as une équipe qui est... Enfin, une écurie, je ne sais pas comment...
Ouais, on dit une écurie, tout à fait.
Qui t'a contacté?
Ouais, en fait, c'est mes qualités mécanicien et puis les deux épreuves que j'avais faites, une en Tunisie et une au Dakar. Et le fait d'être mécanicien dans n'importe quel team, il y a des mécaniciens qui restent sur place, au bivouac, dans l'endroit où il y a toutes les camions d'assistance, les tentes où on dort. Et en fait, dans une équipe allemande, BMW, il y avait déjà trois bons pilotes. Et la quatrième était une femme. Mais il leur manquait un cinquième pilote qui aurait été ce qu'on appelle dans le jargon porteur d'eau.
Okay.
Donc l'idée, c'est pas d'avoir un tonneau en bois dans le dos et de rouler dans le désert avec. C'est juste de se dire, si jamais ces top pilotes, les meilleurs pilotes mondiaux, ils avaient un Américain, Jimmy Lewis, un Anglais, John Deacon, et un Espagnol très, très rapide qui était là pour la victoire, Nani Roma. Ils avaient envie d'avoir un pilote qui était là et qui pouvait éventuellement pas être trop loin derrière eux. Ils imaginaient une demi-heure, une heure. Et quand ce pilote qu'on appelle porteur d'eau arrive et qu'il y a eu une pièce qui est cassée, que ce top leader est encore en course, et ben c'était à ce porteur d'eau de démonter des pièces de sa moto et de réparer la moto du meilleur pilote pour qu'il continue sa course.
D'accord.
Après, le porteur d'eau, il n'a plus qu'à attendre une heure, deux heures, trois heures ou plus.
Ouais, tu n'es pas là pour faire un chrono, tu es là pour...
Ah non, on était là, c'était une assistance rapide, on va dire.
D'accord.
Et donc, quand BMW, qui avait comme partenaire gauloise à l'époque, ils ont dit, mais on a déjà pas mal de nationalités. Andrea Mayer, la pilote, était une Allemande. Donc, ils ont dit, mais ça serait pas mal de prendre un Français, Gauloise étant une marque française. Et là, un Français jeune qui connaissait la mécanique. J'étais à Paris. Je pense que j'ai dû lever la main plus haut que tout le monde. Et voilà, j'ai
signé. Et puis, tu avais montré que tu étais bon aussi en course.
Aussi, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Dans ces dernières années, des pilotes mécaniciens comme moi qui ont fait cette démarche, j'en ai peut-être connu une ou deux sur 2-3 000 pilotes. Donc,
parce que c'est, entre guillemets, mal vu de faire ça, ou c'est...
Non, c'est que la plupart des bons mécaniciens ne sont pas bons pilotes. Et la plupart des bons pilotes ne sont pas non plus des bons mécaniciens. Donc, il faut trouver un pilote moyen et lui apprendre la mécanique, ou trouver un mécanicien et essayer de lui apprendre à faire de la moto. Ouais. Moi, je suis autodidacte. J'ai appris à naviguer dans le désert, j'ai appris à franchir les dunes, j'ai appris à rouler à certaines vitesses. Dans le 11e arrondissement.
Ouais. T'as appris en faisant, en fait, ou t'as...
Non, c'était les clients qui venaient tous les jours pendant 3-4 ans qui me disaient, oui, j'étais là, bon, j'ai failli faire dans les 40 premiers parce que j'ai eu tel problème. Et moi, toutes ces histoires de comptoir, on va dire, de ces gens qui venaient m'emmener leur moto à réparer, Et j'ai emmagasiné toute cette connaissance, ces petites histoires, ces petits problèmes. Et en fait, la première fois où je suis parti, j'avais presque déjà l'impression de savoir ce qui m'attendait, en fait.
Ah, c'est génial, ouais.
Et donc, tous ces gens-là, tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui étaient certains et sont devenus des amis, c'est grâce à eux aussi. Il ne faut pas se voiler la face. C'est des gens qui vibrait pour s'évader une semaine ou deux semaines par an dans le désert. Et le reste du temps, on travaillait sur Paris. Donc,
ouais, c'est des gens, des amateurs qui avaient un petit peu de, qui avaient des moyens pour pouvoir partir.
Exactement. Ouais. Et il y avait un espèce d'échange qui se créait sur le comptoir de l'atelier le soir après 19h, qui durait une demi-heure, une heure ou plus. Et voilà, la passion est aussi née. Faut pas forcément tout le temps attendre de se dire je rêve de montagne, il faut que j'aille à la montagne pour m'exprimer. Je pense que la connaissance, j'ai essayé de l'avoir depuis mon chez moi, depuis mon petit appartement.
Mais sans le savoir, en fait.
Non, je savais que j'avais besoin d'apprendre, j'avais envie de me nourrir de ces histoires de tout le monde, de ce que je pouvais lire dans les magazines, des histoires de Thierry Sabine, le fondateur du Dakar. Mais je n'avais pas de pratique. Ouais. Et en fait, mon manque de pratique s'est un peu équilibré par rapport aux connaissances mécaniques, forcément, et aux connaissances et aux échanges qu'on avait fait avec tous ces gens-là.
Et du coup, à partir de quand tu as rejoint les pilotes ?
Donc, dès 2000, et ce premier Dakar comme pilote assistant, on va dire, pilote mécanicien ou pilote porteur d'eau, comme tu veux. Le problème, c'est que c'est trois bons pilotes. Il y en a un qui, très rapidement, est tombé, s'est fait un peu mal. Donc, il a continué la course, mais il n'était pas très, très rapide, on va dire. L'Américain, dans pleine spéciale, s'est fait survoler par
un
hélicoptère.
C'est quoi une spéciale pour ceux
qui
sont...
Donc, la spéciale chronométrée, c'est la partie dans le désert qui est réellement chronométrée. C'est... on n'est pas dans un stade olympique où le départ se fait derrière la ligne et se finit au bout d'un tour ou plus en fonction du nombre de mètres qu'on a à parcourir. Une spéciale, c'est ça part d'un point A, ça peut faire 300, 400, 500, jusqu'à 800 km plus loin. Et ça arrive à un point B. Ça pourrait être un Paris-Marseille par les chemins, par exemple. Et
d'accord.
Ça, c'est tous les jours pendant 16, 17, 18 jours, ça dépend. Donc, et la spéciale, c'est ce qui détermine le classement de la journée. Et puis, on additionne les temps jour après jour. Et c'est celui qui a mis le moins de temps pour parcourir toutes ces spéciales qui gagne le rallye.
Okay.
et là, donc, c'est dans une spéciale en plein chrono, en train de rouler vite. Jimmy Lewis a pris un oiseau dans le masque, dans son masque de moto. Hein,
comme un masque c'est vraiment pas de bol, quoi.
Et là, vraiment pas de bol. Ouais. L'œil au beurre noir, difficile de rouler à 100% de ses capacités. Ouais. Et à la mi-rallye en Mauritanie, le troisième pilote qui était vraiment là, lui, pour gagner, Nani Roma, il s'est fait une entorse du genou dans un caillou. C'était une hécatombe pour une marque comme BMW, une écurie solide,
super
très réglée.
Réputée. Ouais.
Exactement,
ouais.
C'était une hécatombe. Et là il a fallu faire quelque chose. Et à mi-rallye, donc, dans une journée de repos, après 7 jours de course, il restait encore 8 ou 9 jours, le team manager a décidé qu'il fallait vraiment... absolument essayer de gagner des étapes,
ouais.
Et que mon rôle de porteur d'eau n'existait plus, que les deux autres pilotes qui étaient toujours en course, Jimmy et John, il fallait vraiment qu'ils donnent du meilleur de leur même.
Et qu'ils se débrouillent du coup.
Qu'ils se débrouillent, ouais. Parce qu'il fallait que l'écurie essaie d'avoir quelques résultats, quoi.
Ok.
Et en fait, 2 jours après, j'ai fait une deuxième place. Et là, c'était un peu la surprise parce que c'était mon deuxième Dakar uniquement.
Ouais.
Et puis, j'ai été un peu encouragé. Ça m'a donné un petit peu des ailes.
Ils ont vécu ça comment, les autres pilotes qui te voyaient, j'imagine, qu'à la base comme un porteur d'eau.
Bah, ils avaient un peu compris que j'étais peut-être un petit peu plus rapide que
qu'il y en avait
ça.
Sous le capot.
Exactement, il y avait un peu de puissance sous le capot. Ouais. Ouais. Et donc non, et ça s'est très bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de jalousie. Ils n'étaient pas très, très en forme non plus. Et puis, en fait, on est arrivé dans une spéciale qui faisait la liaison entre le Mali et le Sénégal. Donc, Bamako Tambacounda et là j'ai remporté quelques jours avant l'arrivée ma première spéciale.
D'accord.
Et je pense que cette année-là en 2000 on était deux Français à remporter une journée comme ça et ça a été un peu le déclic.
C'est ce qui a fait que ça t'a été sous les projecteurs, entre guillemets.
Ouais, tout à fait. Et puis le team manager allemand, je me rappelle d'une phrase qu'il avait dit, et je pense que je vais m'en rappeler longtemps, il avait dit je pense que il faut pas qu'on jette de l'or dans l'océan. Donc c'était
beau,
un peu présomptueux,
hein.
Mais ouais,
c'est
c'était,
hyper beau.
C'était agréable parce que faut remettre ça dans le contexte. J'avais 27 ans, j'étais vraiment gringalet, une BMW c'est comme les motos qu'on voit tous les jours, ça a deux cylindres de chaque côté. Ouais. C'est une grosse moto, lourde, imposante. Moi, j'étais un petit jeune, plein de fougue, plein d'envie, plein de connaissances mécaniques aussi. Et me retrouver là, c'était un peu le déclic, ouais, vraiment.
Donc, c'est après, là, tu as continué avec BMW ?
Non, BMW avec les résultats qu'ils ont eus ont décidé d'arrêter leur investissement dans les rallyes.
Okay.
Et rapidement, je suis parti dans un team autrichien,
ouais,
d'une marque autrichienne qui s'appelle KTM,
ouais,
avec les couleurs Red Bull.
C'est à ce moment-là, du coup, où Red Bull est entré dans ta vie, si on peut dire.
Quasiment, ouais. Je ne sais pas si je suis rentré dans la leur ou eux sont rentrés dans la mienne, mais en tout cas, ça a été plus qu'un sponsor. Ça a été une société qui nous a vraiment aidés. On était quelques jeunes. C'était un sport à risque. Ça reste un sport,
ouais,
à risque. Donc, ils ont vraiment mis tous les moyens pour qu'on réussisse. On avait la possibilité d'avoir des soins médicaux, d'avoir des entraîneurs physiques.
Mentaux aussi ?
Non. Non, je pense que ça doit être un peu comme Obélix et la potion magique. Je pense que j'ai eu de la chance quand j'étais petit. J'ai dû naître avec un peu de courage en plus, peut-être,
ouais,
un peu d'envie en plus, un peu de détermination en plus que d'autres enfants. Donc, j'ai essayé un peu la sophrologie pour essayer de voir si je pouvais me reconcentrer dans des périodes, dans des moments dans la journée. Et après 2-3 heures, je m'en sers encore aujourd'hui.
Ouais.
Donc, ça a été important. Mais je me suis toujours dit que le meilleur coach pour moi-même, dans ces moments difficiles où des fois, on aimerait bien avoir un copain, un ami, un frère, un père à côté de soi. Je me suis dit, quand je serai tout seul dans le désert, à part compter sur moi, je ne pourrais jamais compter sur personne.
Ouais.
Le soir au bivouac, le matin aussi avec les équipiers. Mais j'ai un peu appris à essayer de me débrouiller tout seul parce que c'était la seule solution d'y arriver pendant la course. Bien sûr, avant et après, l'entourage a été primordial. Après quelques années, arrivé ici en Andorre, rencontrer ma femme qui a toujours été là pour me soutenir dans les moments difficiles, dans les blessures. Enfin, je veux dire...
Parce que tu as eu des blessures pendant toutes tes Dakar et autres compètes.
Ouais, forcément, il y en a quelques-unes. Là je suis tout habillé, donc on ne voit pas toutes les cicatrices sur les clavicules, les avant-bras, les scaphoïdes, les poignets, mais ouais, il y en a toujours une. Il y a toujours quelques blessures, mais...
T'as un souvenir de chaque compète ?
Ouais, mon premier... En fait, c'était mon 20e Dakar cette année.
Ouais.
J'en avais fini 19. C'était une vraie fierté pour moi.
Ouais.
Il y en avait qu'un seul que j'ai pas fini, c'est en 2002, puisque... suite à une petite chute assez bénigne, j'ai fait un petit peu comme Flipper le dauphin. Donc, j'ai rebondi, j'ai sauté, retombé par terre, revenu, roulé boulet. Et en fait, quand tout s'est arrêté, je me suis assis par terre. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que j'ai rien, tout allait bien, j'avais pas de gros bobos, ouais. Tout allait bien. C'est juste quand j'ai regardé mes bottes et j'ai regardé mes pieds, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais un peu de sable dans mon masque de moto, je voyais un petit peu des étoiles, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui est louche, puisqu'en fait, je me suis luxé la hanche. Ouais. Et j'avais le talon du pied gauche qui était bien dans le sable, avec la pointe vers le haut. Mais pour ma jambe droite, c'était l'inverse. Le talon était vers le haut et la pointe du pied était vers le bas.
Tu dis, c'est pas normal là.
Donc j'ai dit, là, c'est pas normal d'avoir le pied à 180 degrés dans l'autre sens. Et c'était mon seul abandon jusqu'à cette année, pour d'autres raisons qui sont un peu plus techniques cette année. Mais...
Tu t'es juste là, quand tu avais la hanche luxée, tu t'es remis toi-même ou il y a quelqu'un qui
non, a mis... Non, c'était... ça s'est bien passé. Il y a quand même une vraie sécurité. Ah. Je pense que 10 minutes, un quart d'heure, j'étais toujours dans les premiers. Donc, on avait un hélicoptère qui survolait les 50 premiers de la course. Et assez rapidement, on vient sur l'endroit où tu es blessé. Donc, on a une espèce de petite balise qu'on déclenche quand on a un problème. Okay. Et moi, en l'occurrence, je n'arrivais pas à me bouger, mais j'étais sur la piste où les autres concurrents sont arrivés.
Ça devenait encore plus dangereux que...
Alors c'était un endroit un petit peu dangereux que je n'avais pas réussi à lire correctement, visuellement. Mais en tout cas, comme il y avait d'autres pilotes qui sont arrivés, ils ont pu déclencher la balise et envoyer un signal. Et le signal m'a renvoyé un hélicoptère. Donc... C'est les aléas. C'est là aussi que j'ai compris que c'était pas du football, c'était pas de la gymnastique, c'était pas de la piscine. Quand on tombait, c'était pas dans l'eau. Et donc, j'ai vraiment pris conscience qu'il allait falloir redoubler de préparation physique pour vraiment être prêt à endurer ce genre de longue spéciale. Qui ont duré pour la plus longue pour moi, c'était 12 heures.
Donc, c'est tu roules pendant 12 heures.
Quasiment. Ouais, en chrono.
Et parce que justement, j'en parlais avec Olivier, qui est aujourd'hui, il est producteur d'huile d'olive, mais c'est un grand sportif. Il court beaucoup. Il a fait l'UTM et donc il disait qu'il avait couru pendant 33 heures. Et donc, j'ai posé la question de est-ce que tu dors? Tu fais quoi? Il dit non, mais moi, je trace. Enfin, je ne suis pas là pour dormir. Je dormirai plus tard. Quoi. C'est...
Ouais, je pense qu'on est quand on est déterminé. Je suis assez passionné par ce genre d'événement marathon. Ouais.
C'est du trail.
Ces événements marathon, je veux dire, événements où il y a beaucoup d'heures à enchaîner. Ouais. C'est pas des sprints de une heure ou deux. C'est pas des choses où moi j'arrive à me reconnaître non plus. Il me faut vraiment de la distance et des heures
d'endurance
pour être vraiment me sentir à l'aise. Donc je pense que tu quand tu es fixé sur un objectif, que tu as un but.
Tu manges pendant ce temps-là?
Quelques mois. Ouais, tout à fait. On grignote des barres de céréales dans nos poches. Mais...
En roulant en même temps ou tu fumes?
On essaye. En fait, lâcher le guidon, c'est pas forcément très, très facile. Donc, normalement, tous les 250 km, on doit avoir un point ravitaillement où on peut remettre de l'essence dans nos motos et on peut en profiter. On a 15 minutes pour éventuellement manger. Faire ses besoins forcément et puis voilà c'est pour revenir à ce que je disais moi j'avais un but le matin je sais que j'ai 600 km je sais qu'il va faire chaud je sais qu'il va y avoir beaucoup de poussière parce que il y a quelques pilotes à doubler devant donc je me focalise sur mon objectif en prenant tous ces paramètres en compte et en disant ça sert à rien de se presser, il va falloir rouler vite, mais il va falloir gérer la distance, gérer la nourriture, gérer la boisson. On a un petit sac à dos avec un camelback dedans et donc ça c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que j'ai bien réussi à faire en fait. Pas de me dire va à fond, donne tout dès le premier jour. Non, il faut donner un maximum, mais pendant 17 jours. Ouais. Donc,
faut gérer l'effort.
Exactement. Ouais. Ouais.
Et quand est-ce qu'il a été ta première victoire au Dakar?
Alors, ma première victoire, elle est arrivée un peu dans la douleur quand même, puisque On était en 2005, on était en bagarre avec un coéquipier qui avait déjà gagné, lui. Moi, j'avais déjà fait deux podiums, ouais. Hein, en 2003, en 2004, et j'attendais ma première victoire. Et en fait, ce coéquipier s'appelait Fabrizio Meoni, puisque le 11 janvier 2005, on était ensemble, il était devant moi... aux alentours du kilomètre 300 et quelques, et en fait c'était pas facile à trouver la piste. J'ai trouvé la piste le premier, donc je suis parti devant, lui est reparti derrière, et là quelques kilomètres après il est tombé et il est décédé sur le coup, et moi 300 kilomètres plus loin je suis arrivé à la fin du chronomètre, donc à la ligne d'arrivée de la journée, et là il n'y avait plus personne derrière, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose, ouais, qui s'est dépassé, et donc voilà, il est décédé sur le coup. Et on s'était un peu fait une promesse aussi qu'on n'allait pas baisser les bras, il fallait que ce soit lui ou que ce soit moi, mais que notre équipe soit représentée pour...
Du coup, vous étiez dans la même équipe tous,
ouais,
les deux.
Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Lui avait 40 et quelques années à l'époque, moi j'en avais 30, 31... Et j'étais un peu sous son aile, en fait. Ouais. C'était un peu comme le patriarche de l'équipe, même si à 40 ans, c'est pas très, très vieux. Mais en tout cas, il était jamais avare de conseils. Et donc, je me suis dit, j'étais forcément triste. J'étais vraiment touché. C'était une des premières fois où je perdais quelqu'un de si proche. Mais, ouais, mais j'avais pas envie de trahir ce qu'on s'était dit. Et donc, j'ai continué à rouler, se concentrer pendant 6-8 heures en ayant perdu un ami deux jours avant. C'était très dur, ouais, très, très, très dur.
Il se passe quoi, du coup, dans ta tête quand tu roules ?
Il faut essayer de... Tes pensées s'évadent, forcément, avec tous les bons moments que tu as eu avec lui, avec... avec les bagarres qu'on a eues sur la piste, avec des podiums qu'on a eus entre 2001 et 2005, on s'est retrouvés sur tous les rallyes toute l'année, ouais, pas seulement sur le Dakar, mais au Maroc, en Égypte, en Sardaigne, en Australie, enfin partout. Donc ouais, forcément, c'était aller puiser au plus profond de moi-même pour dire vas-y, reste concentré, c'est important, reste sur les roues, ne tombe pas. Et c'est un peu comme si j'avais eu un peu de sa volonté à lui, qui était énorme. C'est un, ouais, Italien hors norme, surdoué, mais aussi très, très costaud physiquement. Et voilà, et je suis arrivé à Dakar le 20 janvier, et c'était ma première victoire. Donc... dans la douleur, mais très fier d'avoir, ouais, respecté ce qu'on s'était dit.
T'étais, ouais, limite plus heureux d'avoir gagné pour lui que,
ouais, 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 que pour, ouais, toi. Ouais, ouais. Ouais. D'avoir respecté un homme, quoi, un grand homme.
Ouais. Et c'est à ce moment-là où, du coup, tu as pris conscience de... Il avait créé une école au,
ouais,
Sénégal.
Ouais, ouais. Il y avait sa femme était à l'arrivée. Ses amis étaient à l'arrivée. Et puis, je savais qu'il avait une école, mais... Il n'en a jamais trop parlé. C'était quelque chose qu'il avait fait comme ça avec un prêtre italien qui était ami d'un prêtre sénégalais. Et à la suite de sa première victoire, quelques années auparavant, il avait décidé de laisser sa prime de course.
C'est combien une prime quand on gagne le Dakar ?
C'est une prime de l'organisation. Après, il y a d'autres primes de sponsors, mais d'accord, la prime était aux alentours de 15 000 euros. Donc,
Si tu gagnes, tes sponsors, ils te,
ah ouais, ouais,
ils te donnent,
ouais,
des
c'est
sous.
C'est comme ça que, ah, ça marche. Ouais, 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 surtout.
Parce que j'en parlais avec une amie, je disais que j'allais passer du temps avec toi, et elle me disait, mais comment il gagne sa vie ? Je dis, il y a forcément les primes, et je dis, s'il y a des sponsors, elle me dit, ah, mais ils lui donnent le matos. Mais je dis, oui, mais donne aussi des... Ils ne font,
ouais,
pas que donner le matos.
Ouais, la moto, il faut voir ça au niveau mondial. La moto, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dur dans la semaine, toute l'année, pendant des années, et qui rêvent juste de s'acheter une moto pour aller faire un tour à la campagne, d'en louer une de temps en temps. Et ces gens-là ont besoin de casques, de bottes, de vêtements, de protection, d'huile, de pneus, de plaquettes de frein. Ouais. Et donc, tous ces gens-là, la meilleure manière de communiquer, c'est d'engager des pilotes qui portent leurs couleurs, qui portent leurs accessoires, et qui essaie de gagner la course la D'accord. plus dure au monde, le Dakar. Donc forcément, il y a, c'est pas, c'est, on parle pas de contrat de footballeur, mais ouais. mais bon, ça permet de vivre correctement et surtout pour ceux qui gagnent. Donc voilà, je suis un d'entre eux et j'ai de la chance. Mais pour revenir à l'école de Fabrizio, ouais. Ouais, la prime de 15 000 euros au Sénégal, c'est juste énorme. Même ouais. encore aujourd'hui, en 2020, 15 ans après, c'est quand même colossal. On arrive à faire
des choses. Tu fais beaucoup de choses avec 15 000 euros au Sénégal.
Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Nous, on fait plus grand-chose ici en France ou en Europe. Mais le prix a un petit peu augmenté. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut 3 euros pour envoyer un enfant dans une école par mois. Donc on en est très très loin
quand je
ouais. exactement. Mais bon voilà, donc on lui avait créé cette école avec 150 enfants qui s'appelait l'école de Fabrizio et ses amis italiens et quand en 2005 j'ai gagné, j'ai dit bah je vais faire la même chose ouais. donc on a décidé de laisser cette première prime et puis à la suite c'est pas facile de pas tomber amoureux et de pas être sensible à tous ces enfants qui ont pas d'école. C'est des écoles privées ouais. qui sont faites uniquement pour que ils aient le droit d'apprendre eux aussi. Donc aujourd'hui il y a une école qui fonctionne très bien qui s'appelle l'école Fabrizio et Cyril de Dakar et dans un quartier de Dakar à Yembel exactement et donc voilà des gens comme Exao, mais anciennement les Maisons France Confort ont contribué à fabriquer cette école puisqu'on est parti de rien du tout. On a acheté un morceau de terrain, on a fait un rez-de-chaussée, on a fait un premier étage. 350 enfants qui rentrent tous les matins dans cette petite école, pleine de vie, pleine de couleurs, pleine de joie, pleine de chansons. Et c'est génial. Et la roue tourne. Et en décembre 2019, ma fille, qui a 9 ans, et ma femme sont parties pour la première fois voir les enfants. Et puis, pour qu'elles se rendent compte que la chance...
Fais, ouais.
Alors, de ce qu'on fait ici avec des amis, de la famille et des sponsors, mais aussi qu'elles voient la chance que nous, enfants nés en Europe, on la chance qu'on peut avoir. Et ça est en train de porter ses fruits parce qu'elle a fait un petit exposé à l'école et puis avec ses yeux à elle, avec ses mots à elle, elle est en train de faire régulièrement. On passe des petites vidéos et elle explique le pourquoi du comment.
Ah, c'est super.
Ouais, c'est plutôt...
Elle s'est diffusée comment, ces petites vidéos?
Non, pour l'instant, c'est des choses qu'elles ont faites. C'est elle qui avait le téléphone de sa maman, D'accord. qui a filmé des classes, qui a filmé le cours préparatoire... le CM1 et donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai jamais voulu faire vraiment beaucoup de promotion sur cette école parce que Fabrizio, jusqu'au jour où il est décédé, lui en faisait pas et en mémoire à ce que lui avait mis en place, je voulais essayer de le faire dans le même état d'esprit. Donc il n'y a pas forcément énormément de gens qui nous aident et qui connaissent l'existence de cette école. Maintenant, plus ça va, plus je me rapproche. Je ne sais pas exactement si je vais concourir encore, participer à des compétitions encore longtemps. Donc, je commence à en parler un peu plus pour que cette école, elle vive, même si j'ai plus de primes de compétition, de résultats, de victoires, que l'école continue
pour
à vivre.
Pour trouver, avoir d'autres sponsors pour t'aider.
Ouais, on est en train de mettre, en plus, on est en train de mettre ici en Andorre, où je vis un parrainage, en fait. Avec des enfants qui pourraient converser en français dans le cadre des cours de français qu'ils ont ici, des Espagnols, des Anglais.
Parce qu'en Andorre, on ne le sait pas forcément, mais les gens parlent catalan ici.
Exactement. Ouais.
Donc tu parles catalan, espagnol, anglais et français.
Ouais, ouais.
Et
exactement.
Ta femme est andorrane.
Exactement, ouais. Mais le français est très proche. Hein. On est dans les Pyrénées avec une frontière côté espagnole, ouais. une frontière côté française. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup d'enfants qui apprennent le français à l'école. Donc, on trouverait ça génial dans un avenir proche. Je pense que ça sera à la rentrée 2020 en septembre. On arrivera à parrainer au moins la moitié des enfants de l'école. Donc, ouais, ça sera cool.
Ils ont quel âge les enfants les plus vieux que... Enfin, quand tu as commencé, tu as gagné ton premier Dakar, ils ont...
C'était... l'école est née... La nôtre, l'école, elle ouais. est née en 2008.
D'accord.
Donc, il y a déjà 12 ans. On a un prof de sport et puis une aide, une assistante qui était des élèves de l'école.
Super.
Et qui aujourd'hui travaille dans l'école.
Top.
Et le but, c'était de se dire, de continuer à ce que Fabrizio avait commencé, mais aussi de se dire, on ne va pas les changer, on ne va pas changer leur mode de vie, on va juste essayer de leur donner la possibilité d'apprendre et de s'éduquer. Il y a quelques personnes qui ont vraiment réussi parce que c'est des gens qui n'ont pas le droit à l'école publique, puisque l'école publique est payante au Sénégal. Et donc là, ces gens, normalement, restent dans la rue. Et sur la quantité d'enfants qui sont passés en 12 ans, il y a eu des très bons élèves et des très bons élèves qui maintenant, à leur tour, aident. Il y a quelques docteurs, il y a quelques personnes qui ont montré des startups qui sont dans le digital. Donc, ouais, c'est assez rigolo.
C'est beau, hein. Ouais. Et tu as écrit un livre pour aider à sponsoriser
Ouais, on avait fait un livre qui s'est plutôt bien vendu. Alors, on a un petit peu comme l'histoire des bouteilles de vin pour faire mon premier Dakar. Quand il y a eu des années un peu plus compliquées où il fallait vraiment monter d'un étage, où il fallait investir dans du matériel, on a essayé de trouver des idées. Et en 2004, à la suite de ma quatrième victoire, on a fait un livre qui s'appelait Dakar x4.
Quand tu dis « on », c'était avec qui ?
Avec Laïa, avec quelques
Laïa,
amis.
Laïa, donc ta femme.
Des gens, ouais, Laïa, ma femme, avec des gens, avec... mon assistante, avec mon manager qui était anglais. Donc, on a fait un livre surtout avec des photos, des images des Dakar, de mes premiers Dakar et surtout de mes quatre victoires.
C'est vrai que quand on voit les photos, j'imagine que ça... Enfin, je n'ai pas vu ton livre, mais ça doit être un beau livre à offrir. Et...
Ouais. Je t'en enverrai un alors.
C'est
parce qu'il m'en reste quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de regarder devant et loin devant. Et c'est vrai qu'on est sans doute passé à côté de plein de possibilités de trouver d'autres sponsors, des parrains, le côté business, ça n'a jamais été mon truc. J'étais drivé par la passion, drivé par la compétition.
Ouais, mais je pense que tu vois, dans toutes les personnes que j'ai interviewées à ce jour, c'est donc des gens passionnés comme toi, avec des métiers qui n'ont rien à voir, tous ensemble. Mais tout le monde te dit qu'en fait, le premier moteur, ce n'est pas l'argent, en fait.
Et clairement, il faut savoir que le Dakar a eu 42 ans cette année.
Ouais.
Il y a eu... 12 pilotes de moto qui ont gagné les 42 éditions.
Que 12 ?
Que 12.
Ouais, c'est pas beaucoup. 40, hein.
Ouais, sur 42 ans. Et en fait, moi, j'en ai fait 15 en moto, j'en ai fait 5 en voiture. Et je vois bien que le nombre de pilotes talentueux, rapides, motivés, que j'ai pu voir dans ma carrière, mais qui n'avaient pas forcément... la même envie de gagner que celle que j'avais envie. Il y avait d'autres velléités financières, d'être connu, de passer à la télé. Je m'en foutais tout ça.
Il est où le sens, en fait ?
Ouais, le sens, c'était d'aller vraiment chercher au fond de moi-même ce que j'avais vraiment envie. C'est-à-dire, je voulais réussir, moi. En moto, on arrive à partir le matin à 4 heures du matin, de partir de l'endroit où on dort, qui s'appelle le bivouac, faire 150 km pour arriver à ce fameux départ de spécial qui peut être à Paris et puis la spéciale se finit à Marseille. Et là, j'avais juste une motivation, c'était de bien faire. C'était de maîtriser chaque virage, chaque freinage, chaque décision, si je devais ralentir, si le terrain que je voyais, puisque je ne sais jamais exactement où je vais, je suis des informations qu'on me donne sur un rouleau de papier que je déroule sur la partie avant de ma moto. Donc, je suivais ces informations comme un GPS papier, on va dire. Et là, je me battais contre personne, en fait. Je voulais réussir, pour moi.
Ouais. Mais ça, c'est souvent, d'ailleurs, on en parlait aussi avec Olivier, le grand coureur, c'est qu'il me disait, en fait, moi, je pense qu'il n'a jamais gagné une course parce que c'était pas ça son objectif. Mais il disait, moi, je ne me bats pas contre les autres, je me bats contre moi-même. Parce qu'en fait, si tu attends que quelqu'un perde pour gagner, c'est pas beau, en fait.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais.
Non, la motivation... dans les années 2007, j'avais gagné deux fois et j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer quelqu'un qui était un deuxième idole après mon premier moniteur de moto de trial qui était dans la région parisienne. Et cette personne que j'ai rencontrée s'appelle Mike Horn,
ouais.
Et qui à l'époque, par hasard et par une connaissance mutuelle, j'ai passé une soirée avec lui et il m'a dit j'aurais adoré être pilote de moto parce que je pense que j'aurais pu être très fort et j'aurais pu aller très vite parce que mon envie de gagner elle est toujours plus forte que ma peur de perdre. Et en fait c'est une phrase que je me suis qui a résonné dans ma tête,
ouais.
Certains jours peut-être 10-20 fois, certains jours peut-être une ou deux fois. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et vraiment présent. J'ai toujours eu envie de réussir. Et je n'ai pas peur de le dire. C'était principalement pour moi comme pour me dire je travaille, je fais quelque chose de sérieusement, professionnellement et j'ai envie que ça marche en fait.
Ouais.
Et comme je n'avais pas forcément les capacités de gérer une entreprise avec 5, 10 ou 50 salariés, parce que ce n'est peut-être pas quelque chose où j'excelle, je me dis, j'ai choisi par chance, par choix, avec ma détermination.
Par talent.
Par talent aussi un peu. Ouais, tu as raison. Et donc, j'ai choisi cette discipline, j'ai choisi ce sport. C'était impossible à 14 ans de s'imaginer que j'allais pouvoir faire de la mécanique, j'allais pouvoir faire de la compétition, j'allais un jour faire un Dakar. C'était impossible. C'était impossible d'imaginer que j'allais pouvoir peut-être un jour gagner une spéciale d'un Dakar. C'était impossible de même savoir que j'allais gagner ma vie avec cette moto, avec ce sport et avec ce Paris-Dakar. C'était impossible d'imaginer que j'allais gagner un Dakar un jour. Donc imagine... J'en ai gagné 5 en moto. En une vingtaine d'années, j'ai fait 13 podiums. Je suis presque rassasié. Je veux dire, j'en attendais pas tant. Mais ça, c'est cette fameuse petite porte un jour que j'ai voulu pousser et qui m'a dit mais il faut y aller, il faut essayer. Quoi.
Ouais, tu as écouté ta petite voix.
Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment un conseil que je donne aux jeunes parce que. Mon papa n'avait pas de valise plein de francs français à l'époque ou d'euros. J'avais pas forcément quelqu'un qui faisait de la moto dans le désert à l'époque. J'avais juste envie d'avancer dans une direction et puis ça a plutôt pas trop mal marché. Si c'était à refaire, je referais exactement le même chemin.
Tout pareil.
Ouais, ouais.
Et à partir de quand, du coup, tu as ton casque, c'est la transition entre la moto et la voiture. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ta moto pour passer à la voiture?
Alors,
parce que c'est un nouveau métier. Enfin,
ouais, c'est un nouveau métier. Alors,
on n'imagine pas ça. En fait, en lisant des choses sur toi, tu fais le Dakar en moto. Moi, je ne suis pas très sport mécanique, hein, clairement.
Ouais, ouais.
Rien que conduire ma voiture, ce n'est pas un truc où je kiffe vraiment. Et je disais, ouais, en fait, on n'imagine pas que ce n'est pas du tout la même préparation. Ce n'est pas le même métier, en fait.
Non, non, tout à fait. C'est, je veux dire, quelqu'un qui fait du ski de fond ne va pas forcément pouvoir gagner une autre épreuve sur ski en descente à 120 km/h sur des skis. Pourtant, c'est des skis, c'est la même chose. Là, ce qui a fait changer, c'est que je suis arrivé un petit peu au bout d'une histoire et après 15 participations, il y avait un record. Le record était de 6 victoires détenues par Stéphane Peter-Hansel. Mais je veux dire, une victoire, j'en avais déjà assez. Donc, 5 victoires, pour moi, c'était top. Je n'avais pas envie de battre des records. J'avais juste envie de faire quelque chose qui me plaisait à 200%.
Ouais.
Et le fait que, à 40 ans, deux petites filles qui étaient nées entre-temps, avec toutes ces années où il y a des années où je partais quasiment 6 mois de l'année de chez moi, les entraînements, les courses, les préparations physiques. Donc voilà, c'est pas mal de voyages. Et puis à une quarantaine d'années, j'ai eu l'opportunité de mettre mon nom sur une liste de pilotes qui étaient susceptibles de rentrer dans un team de Peugeot. Donc Peugeot, pour l'histoire, pour les gens qui suivent ou qui ont suivi le Dakar, il y avait un pilote, Harry Vatanen, qui roulait avec des Peugeot 205 pardon, à l'époque, jaunes, et qui ont été assez mythiques, les départs de la Concorde avec toutes ces Peugeot et l'armada Peugeot. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Et moi, de pouvoir faire la transition et sans devoir passer et retourner à la case départ où il fallait éventuellement vendre d'autres bouteilles de vin. Ouais. Alors beaucoup pour louer une voiture ou pour m'acheter une voiture ou pour... C'est vraiment très compliqué, le sport automobile.
Ça coûte encore plus cher que la moto, ouais.
Ouais, c'est presque un rapport de 5. Hein. C'est vraiment D'accord. quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus de mécaniciens pour entretenir. Mais voilà, je suis rentré directement dans une équipe professionnelle sans avoir fait aucune compétition automobile, ouais. sans avoir fait de quad, sans avoir de palmarès. Et quand je suis arrivé, que je me suis retrouvé pour la première fois en tête à tête avec Bruno Famin, directeur de Peugeot Sport à l'époque, il s'est mis à rire quand même. Il me dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu me dis que tu n'as jamais fait de voiture, tu n'es même pas passionné de voiture, tu veux juste découvrir la voiture et la compétition de voiture, mais on est un team professionnel. Je dis, ouais, mais j'aime le challenge, quoi.
Pourquoi pas moi, quoi?
Et lui m'a fait confiance.
Ah, super.
Et lui m'a fait confiance, il m'a dit, écoute, on a sans doute, on a 4 voitures et on a sans doute les 3 meilleurs pilotes à l'heure actuelle. Il y avait Stéphane Peter Hansel qui avait déjà remporté 6 Dakar en moto et 5 Dakar en automobile. Il y avait Carlos Sainz, champion du monde espagnol de rallye, et il y avait aussi Sébastien Loeb. Ouais. Donc pourquoi faire confiance à un motard plus jeune qui a aucune connaissance de la conduite automobile, mais par contre j'avais mon passé de motard qui me servait. Et puis très rapidement, après quelques jours d'essai, il s'est rendu compte que bon, il avait misé sur le bon cheval aussi, que j'ai commencé à vouloir tout connaître, tout apprendre de la voiture. Et dans un team français comme Peugeot Sport, avec des gens qui excellaient dans tous les domaines, les techniciens, les mécaniciens, les ingénieurs, les gens qui sont responsables des suspensions, du châssis, du moteur, de tout. C'était juste les meilleurs. Hein. Ouais. Quelques années auparavant, ils venaient de gagner les 24 heures du Mans, donc en voiture avec une 908. Donc voilà, je suis arrivé par la grande porte dans un grand team et à côté de grands pilotes. Donc voilà, c'était...
Là, comment tu t'es formé, grâce à eux ou...
Ouais, c'est vrai que d'avoir des pilotes très rapides de suite, ça m'a donné un peu les possibilités en disant, si lui passe à 120 dans la courbe et que moi j'arrive naturellement à 80, il faut que j'essaie d'aller plus vite. Donc je savais que ce virage à l'entraînement, sur des pistes d'entraînement au Maroc ou dans le sud de la France, du côté de Narbonne, ils arrivaient, eux, à passer plus vite. Donc, j'avais des marques. J'avais leur marque dans chaque virage, dans chaque ligne droite, dans chaque freinage. Et donc, j'ai essayé d'apprendre pour essayer de les copier, en fait, tout simplement.
Et quand t'es passé de la moto, il n'y a pas des gens qui t'ont dit, mais tu t'arrêtes alors que t'es au sommet de ta gloire ou dans la continuité de ta gloire?
Ouais, j'étais quand même un petit peu un électron libre. Hein. Ouais. Je veux dire, j'ai fait toute cette partie de ma carrière avec des gens autour de moi, que ce soit des partenaires ou des techniciens. Je suis resté 13 ans chez KTM avec le même mécanicien. Donc non, et ils ont bien vu que c'était un challenge qui me branchait. De 1974 jusqu'à 2014, il y a à peu près 2-3 pilotes qui ont reçu ça, c'est-à-dire des anciens pilotes de moto qui sont devenus des bons pilotes auto, Hubert Auriol, Stéphane Peter Hansel. Donc je dis, si eux ils ont réussi, et pourquoi pas moi, quoi. Et depuis quelques années, c'est tout le mal que je me souhaite. Ouais.
Jusqu'à là, l'année dernière, où tu t'es dit finalement...
Je me suis dit que mes filles grandissaient. Je me suis dit que c'était un petit peu compliqué de réussir dans la voiture. S'il fallait pas que je continue à mettre les bouchées doubles comme ça. J'ai senti un petit coup de... une petite baisse de régime, en fait. Et comme j'ai toujours écouté ma passion, mon cœur, mon envie... La grosse différence en automobile par rapport à la moto, c'est que dans le désert, en moto, on roule, on accélère, on change les vitesses, mais on navigue aussi. On prend les décisions, on lit notre livre de route. Et quand on est en automobile, on a besoin d'un copilote. Et c'est vrai que cette relation, elle n'est pas forcément toujours facile à trouver.
C'est toi qui choisis ton copilote ?
Ouais, on choisit, mais j'étais quand même au top des motards quand je suis passé à l'automobile, et donc j'avais beaucoup d'exigences et je connaissais aussi la navigation, donc c'était pas facile pour trouver un bon navigateur. Et puis l'an dernier, en 2019, j'ai fini cinquième en auto, c'est pas mal.
T'avais changé de... T'étais passé sur Mini,
j'étais passé chez Mini. Je suis le premier à finir de notre équipe. Donc, il y avait quelques points positifs. Mais je sais pas. J'ai senti qu'il y avait peut-être une page qui se tournait. J'avais peut-être envie de faire quelque chose. Peut-être pour un an. C'était ma 20e participation. Et donc, je me suis lancé, toujours avec Red Bull, dans un challenge... en disant, voilà, j'ai quand même maintenant une vingtaine d'années d'expérience derrière moi. Ce serait aussi pas mal de faire un peu le coach, un peu le professeur, d'essayer de partager cette expérience. Et je suis rentré dans ce team junior team de chez Red Bull pour coacher trois petits jeunes américains qui ont comme envie de devenir les pilotes de voitures tout terrain.
Du coup, c'était à coacher pour des voitures.
Exactement, ouais. Ouais, j'ai coaché pour de la voiture et donc ces jeunes, l'idée c'est d'avoir les meilleurs pilotes tout-terrain au monde.
D'accord.
Qui gagnent aux États-Unis, qui gagnent au Mexique, qui gagnent le Dakar et des courses qu'il peut y avoir un peu partout sur la planète. Donc c'est un challenge ambitieux, ça a plutôt pas mal démarré. Blade et Mitch, les deux pilotes, ont gagné eux aussi des spéciales pour leur première participation.
Mais toi, tu t'étais dit, j'y vais pas. En fait, là, je me suis dit, bon, c'est bon, je passe le relais aux autres. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu as fait le Paris, tu as refait le Paris-Dakar, enfin le Dakar, comme ça s'appelle.
Ouais. Bon, concours de circonstances. Il y avait trois jeunes. Le plus jeune, Seth, avait 17 ans. Mitch, 22, et Blade, 20 ans. Donc, le petit jeune de 17 ans, ça s'est un peu compliqué au niveau des démarches administratives pour qu'il puisse rouler en Arabie Saoudite cette année. Et au mois de novembre, il y avait une voiture de libre. On a dit, Red Bull a dit, mais c'est quand même vraiment dommage. On avait trois voitures. On aura trois voitures, mais il nous manque un pilote. Et ils m'ont posé la question si j'avais envie d'y aller, parce que c'était quand même bête de passer à côté, peut-être d'être sur le terrain, de pouvoir leur
coacher au quotidien. Ouais.
Exactement, le matin, le soir, peut-être dans la journée. Donc, et j'ai trouvé ça sympa. Donc,
parce qu'à la base, tu t'étais dit que tu irais, mais sans concourir, ou même pas forcément
non,
y être présent physiquement.
Non, même pas. Non, je m'étais dit, je savais pas exactement ce que je cherchais, en fait. C'était la première fois où je savais pas exactement en septembre ce que j'avais envie, ce que je cherchais, ce que j'avais besoin de faire.
T'avais des mots physiques ?
Non,
c'était
tout. Non, c'était juste de dire et maintenant quoi ? Et maintenant où ? Et maintenant comment ? Et puis, j'ai pas forcé le destin. Je me suis juste mis comme l'autostoppeur au bord de la route, en me disant je vais mettre là, peut-être que je tendrai le doigt ou peut-être pas, et puis peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va s'arrêter pour me prendre. Là, c'était un peu comme ça. Et donc j'ai été enrôlé comme coach. J'ai trouvé ça vraiment génial, ce ce job de coach, de papa, de ces trois jeunes qui ne connaissent pas du tout le désert comme on le connaît ici. Ils connaissent les courses aux États-Unis, mais ils ne connaissent pas du tout ce genre de désert, encore moins au Moyen-Orient.
Et je pense que c'est un truc qui est hyper important, comme tu disais, c'est se laisser ouvert en fait à toutes les opportunités, mais... et pas se dire si j'attends que. Non, il faut se dire, faut vraiment être ouvert à tout et se dire bah ça viendra, et avoir confiance à son bonne étoile, à quelque chose supérieur ou pas, et ou dans les autres.
Et ouais. Je pense qu'on est, quand on est vraiment canalisé dans notre job, dans notre façon de faire, dans nos croyances, c'est comme si, c'est comme ça. En fait, voilà, on a des œillères et puis on ne regarde pas exactement ce qui se passe. Moi, j'ai fait vraiment 20 ans la même chose. Je suis enchanté, peut-être que je vais continuer à le faire, mais là, tout ce qui m'est arrivé depuis le jour en septembre où j'ai eu le patron du Timini en disant « Écoute Sven, je suis désolé, mais je n'ai pas envie de partir cette année. C'est des raisons personnelles. Merci de me comprendre. Merci de m'écouter. »
Ça lui était jamais arrivé?
Jamais. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais en une trentaine d'années qu'un pilote qui avait les capacités de bien faire et de gagner lui dise « Non, mais je n'ai pas envie. » Mais bon, on a le droit d'être différent aussi.
Bien sûr. Et c'est ce qui fait ta différence et qui tu es.
Et donc, à la suite, tout s'est un peu enchaîné rapidement. Seth n'a pas pu prendre le départ. La voiture était disponible. La voiture m'a été donnée. Et puis, il manquait un copilote. Mm. Et comme il fallait trouver un coach fort, un navigateur dans mon carnet d'adresse, le mec qui sort en numéro 1, c'est Mike Horn. Donc... Le seul problème, c'est que fin novembre, début décembre, il était au pôle Nord en train de traverser l'Arctique. Ouais. Et lui, je lui ai fait un petit mémo de 2 minutes que j'ai envoyé à sa fille et qu'il a reçu en lui disant « Écoute, c'est pas que de la compétition mécanique. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que tu connais mais sache que t'es né en Afrique du Sud. Je sais que tu connais le Dakar. Il faut vraiment que tu comprennes qu'on a aussi envie de former ces jeunes avec ces petits buggies de moteurs de Twingo. Donc, c'est des petits véhicules. Et il faut vraiment qu'on leur donne quelque chose en plus. Notre envie de gagner, notre envie de bien faire et ton envie de leur dire, voilà, on va pas s'arrêter de prendre l'avion, on va pas s'arrêter de prendre la voiture, de partir en vacances, de consommer, mais essayer de faire quelque chose d'une manière différente. Et Mike, quand il a fini d'écouter mon message vocal de 2 minutes, il m'a renvoyé un SMS en me disant « Let's do it, quoi. On y va, ouais. C'est parti. »
Sachant qu'il était quand même coincé une semaine avant dans la glace avant le Dakar.
Ouais, ça, la fin de l'expédition était un peu compliquée, surtout qu'il avait pas envie de se faire récupérer par un hélicoptère, c'était ce qui était le plus facile. Ils ont voulu, avec son collègue Borguet, après 3 mois de marche sur le cercle arctique, en passant par le pôle Nord, ils ont voulu arriver vraiment au bout de leur... De leur aventure, de leur expédition. Il leur restait quelque chose comme 200 grammes de nourriture à la fin, après avoir galéré 1700 km par des moins 20, moins 30, moins 40. Mais bon, il a
sans voir le jour.
Ouais, entre autres, ouais, en plein hiver. Aucun homme sur la Terre a voulu tenter l'expérience. Hein. C'est des conditions extrêmes. Il m'a dit, on a eu pas mal de temps pendant le Dakar, d'en discuter le soir après les étapes. Et il m'a dit, mais c'est juste ce que tu souhaites pas à ton pire ennemi. Le froid, le gel, la nuit, c'est le vent. Enfin, je veux dire, c'est une épreuve extrême. Et je pense que pour ces jeunes qui veulent réussir dans la vie aussi en tant que sportif, en tant que pilote.
C'est dur physiquement.
Écouter Mike qui venait de débarquer du cercle arctique et débarquer à Jeddah en Arabie Saoudite. Et là, ils ont dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce que ce mec vient de faire? C'était juste bluffant. Et donc, on a partagé un Dakar totalement différent de ces 19 autres.
Parce que là, tu n'étais pas là pour gagner, en fait.
Non, on était là pour les aider, on était là pour leur apprendre, on était là pour aussi profiter. Ouais. On avait le même petit buggy qui allait beaucoup moins vite que n'importe quel véhicule que j'ai eu de ces 19 dernières années. C'était vraiment...
Il n'y a aucun moment où tu t'es dit j'ai envie d'appuyer sur l'accélérateur comme avant?
Non, parce qu'en fait, je savais que en disant non à un team officiel, à une voiture officielle qui peut rouler à 180 km/h, ça c'était au... fin août, début septembre. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais j'étais en phase avec moi-même en me disant il faudra l'accepter. Ouais. Si tu as accepté de ne pas faire ce challenge-là et que tu vas dans une direction comme l'autostoppeur qui t'empale, pousse au bord de la route, tu devras accepter ce qui viendra et te servir de cette expérience pour être plus fort et de voir cette compétition d'une autre manière avec des autres yeux. Et c'est ce qui est exactement arrivé. On a partagé plein de bons moments, de rigolades avec Mike, des histoires qui lui est arrivées sur la glace, des histoires qu'on a eues, on s'est perdu, il y a des trucs qui arrivent qu'à Mike Horn. On a crevé plusieurs fois des roues et il est tellement à même de tout donner, le maximum d'énergie et de toujours se battre, qu'il voulait à peine qu'on ralentisse légèrement pour savoir si vraiment on avait crevé ou on n'avait pas crevé. Il se détachait un petit peu les sangles de ses harnais pour essayer de tendre la tête et d'essayer de voir, de regarder si par la fenêtre il voyait si on était vraiment crevé ou si encore on pouvait encore peut-être rouler un kilomètre en plus avant de s'arrêter et changer la roue. C'est juste... Dans tout ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait vivre à ces jeunes, c'est des leçons de vie. C'était vraiment... Et moi, je l'ai pris comme tel. C'était vraiment une leçon de vie de partager 8000 km avec quelqu'un qui venait de faire un exploit physique, un exploit humain, un exploit universel, qui va sans doute jamais être retenté par des hommes. Donc, arriver du cercle arctique et passer directement dans le désert, aller...
Il y a un petit écart de température, léger.
Entre autres, ouais. Mais bon, il s'adapte très bien à n'importe quel domaine.
Ouais. Et donc là, ça va être quoi la suite ?
La suite est un peu ouverte. La suite, elle est... j'ai l'impression que Mike a vraiment apprécié de faire autre chose, de s'ouvrir lui aussi à autre chose. C'est pas que moi qui ai dit non, merci, je veux changer de métier. Lui a dit aussi pourquoi lui aurait pas le droit non plus. C'est un explorateur, c'est un aventurier, il veut découvrir aussi le monde d'une autre manière. Et donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de faire d'autres aventures avec des jeunes. Il y a des idées, pourquoi pas prendre des jeunes sportifs, peut-être Red Bull, et de les emmener tous ensemble, des gens qui font du skateboard, du snowboard, du surf, peut-être des sports mécaniques, du karting, des jeunes qui font du motocross, de les mélanger, d'essayer de les rendre plus forts dès leur plus jeune âge.
Que chacun apprenne des autres.
Exactement, le partage, comprendre comment fonctionnent les uns et les autres dans des milieux un peu quand même hard. On ne va pas rester juste au Club Med, au bord de Méditerranée. On pense plutôt à mettre tout le monde sur un bateau, partir 15 jours, de faire une marche une semaine avec des sacs à dos dans le désert. Enfin, voilà, on a quelques idées pour essayer de les aider à être bons, à être meilleurs en tout cas.
Ouais.
Et je me réjouis de l'avenir.
De la suite. Et comment ton entourage il t'accompagne dans cette suite ? Ou dans ces...
Ouais, ils ont toujours été à l'écoute. Je veux dire, j'ai pas peur de dire que j'étais un des leaders. Il faut être sans être un pionnier. J'étais un leader de ma team. Dans ma team, il y a mes potes, il y a ma femme, il y a ma famille, toute cette famille qui est en Andorre. Des supporters, il y a un peu tout le monde en fait dans cette team. Et moi, j'ai toujours été le leader de cette team parce que même si quand tu montes sur un podium, c'est dans tes mains que le trophée arrive et c'est toi qui le brandis, mais il y a quand même un paquet de monde autour de toi qui sont au pied du podium qu'on ne voit pas sur la photo. Mais
beaucoup plus que ce qu'on imagine.
Moi, quand je suis en haut du podium, je vois exactement qui est en bas et tous ces gens qui m'ont aidé à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, Donc, mon entourage, il me suit à bloc. Ça a été plutôt bien perçu de se dire pourquoi on est obligé de séparer ces deux mondes en disant il y a un aventurier qui marche, qui fait du canoë, qui fait du vélo, qui fait de la voile et ça n'a rien à voir avec le motorsport sans mettre la Formule 1, ni le rallye, ni les courses de moto. Je pense qu'on a tous le droit d'être heureux sur cette planète. Et en fait, je me dis, quand on mélange nos aventures, quand on mélange notre savoir-faire, quand on essaie de leur donner à quelqu'un d'autre, ça marche. Il y a des gens qui sont à même de l'apprécier, en fait. Donc, on se dit, ça, c'est pas beaucoup fait. Ces deux mondes, normalement... Il y en a un qui est un peu plus vert que l'autre et c'est pas deux mondes qui s'ignorent, c'est deux mondes qui se respectent, des sportifs qui se respectent. Ouais. Mais là, on s'est dit, mais ça a tellement bien marché et les gens ont tellement bien répondu que un Mike Horn et un Cyril Després, ils peuvent faire encore autre chose. Et puis, l'idée, c'est pas juste de bannir ou de rayer tous les gens qui sont passionnés de voitures, de motos, d'avion ou quoi que ce soit. On doit aujourd'hui apprendre aux jeunes qu'on peut aussi rouler avec des plus petits moteurs, avec des consommations d'essence comme la voiture qui roule autour du périph tous les jours, avec une autre manière de consommer la compétition automobile ou moto. Et je pense que avoir un ambassadeur comme Mike qui est prêt à le faire aussi,
c'est top.
Ouais, c'est top. Ouais.
Et tes filles, comment elles te voient? Parce que bon, elles t'ont toujours connu au volant d'une voiture ou d'une moto.
Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était pas passionnée par la moto, passionnée par la course, la compétition. Ici en Andorre, c'est les montagnes, le ski. Elle était un peu pionnière, on va dire que le couple Horn-Després qui s'est formé ici, le premier couple, Laïa et Cyril, donc ma femme, s'est formé il y a quelques années. Et en fait, elle m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie. Elle avait quelques inquiétudes, mais la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est m'entraîner dur, travailler dur. Pour moi, il n'y avait pas forcément de samedi ni de dimanche. Il n'y avait pas de 24 décembre ni de 1er janvier.
Parce que le Dakar, c'est toujours en janvier.
Exactement. Ouais. Et puis, la dernière ligne droite, quand les gens font des cadeaux, mangent des chocolats, de la dinde au marron, moi, j'étais plutôt dans les derniers gros entraînements.
Bah, c'était pas le sujet.
Non, c'était pas le sujet. Et elle a toujours compris, respecté. Et elle a toujours tout le temps aussi bien compris que la forme physique, quand tu veux partir sur un événement motorisé comme ça, c'est primordial. Donc,
encore plus quand tu étais en moto.
Forcément, encore plus en moto. On n'a pas comme maintenant des portières, des ceintures de sécurité, un toit et un pare-brise. Donc, on était vraiment plus à même de se faire mal en cas de chute en moto. Mais elle a toujours vraiment appuyé le fait que c'était une forme de respect pour moi de me lever à 6h du matin un dimanche au mois de décembre pour aller m'entraîner, parce que c'était une forme de respect de ma famille, de ma femme, de mes filles, en disant c'est aussi pour que je revienne vivant, que je revienne.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de ce que tu me disais, il y a beaucoup de personnes qui ne reviennent pas.
Ouais, il y en a eu.
Il y en a plus que ce qu'on imagine.
Il y en a eu parce que il y a quand même beaucoup d'événements aussi motorisés. Ça arrive de temps en temps, mais on fait des sports extrêmes et nous on se bat contre la nature, donc que ce soit en Himalaya ou en mer, il y a beaucoup plus de disparus ou de gens qui décèdent en pleine montagne. Donc nous on fait face à un désert qu'on connaît pas, il y a des trous, il y a des bosses, il y a des cailloux, il y a des dunes, il y a des dangers.
Ouais. T'as jamais eu peur?
Non, pas encore. Non. J'aime trop l'adrénaline de la vitesse. J'aime trop l'immensité du désert. Je le respecte. S'il y a des endroits où mon sixième sens me dit ralentis, je ralentis. Puis j'essaierai de raccélérer plus tard, un peu plus vite.
Ouais, tu t'écoutes beaucoup. Enfin, tu t'écoutes beaucoup dans le bon sens du terme.
Ouais. Je pense que c'est ça. Quand tu vis autant d'années, autant de kilomètres dans un élément naturel comme le désert, tu commences à le respecter, à le connaître.
Ouais.
Tu essaies de le comprendre, t'essaies de voir ce qui va arriver devant toi à la vitesse où tu roules, mais surtout il faut le respecter parce que l'adversaire numéro un c'est réellement lui en tout cas.
Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Ah, de mes filles.
Ouais.
C'est mes plus beaux trophées forcément.
Ouais.
Il y en a quelques-uns à la maison des beaux trophées, mais ceux-là je les ai pour quelques années, et puis de les voir grandir, évoluer, c'est pour ça que tous ces efforts que j'ai fait pour vraiment être fort et me battre tous les jours et rester concentré pour revenir entier, ouais, vivant et de les voir grandir, c'était ma motivation principale.
Si tu croises quelqu'un qui te dit « t'as de la chance », comment tu réagis ?
Ouais, je me la suis un peu créée, ma chance, mais la chance, elle peut arriver d'un peu partout, un peu de plusieurs manières, mais je pense qu'on est obligé de se la créer un peu. J'ai toujours préféré commencer à semer avant de récolter. C'est ouais, un peu ma devise.
Je partage parce que c'est souvent on me dit mais en fait t'as de la chance, mais non, mais en fait si j'avais pas fait ça,
ouais, je suis d'accord.
On serait pas là aujourd'hui. Avec du recul, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne?
Il y en a tellement de conseils, le conseil de mon patron qui m'a fait confiance, je pense que des fois on a peur de faire confiance à des plus jeunes, à des gens qui ont peut-être pas forcément des capacités où on les imagine pas, ces capacités. Moi aujourd'hui j'ai pas peur de voir un jeune et de lui donner une paire de bottes, de lui donner un casque et de lui dire vas-y fonce, t'as envie de faire ça mais fonce. Et à l'époque peut-être qu'il y avait un peu plus de facilité pour un patron de prêter sa moto à son employé, comme moi j'ai eu le droit ou la chance d'avoir. Mais ouais, il faut faire confiance aux autres, je pense que...
Ouais.
J'y crois, ça.
Il y a des personnes qui t'ont inspiré. Donc là, tu disais, tu as eu deux idoles.
Ouais, j'en ai eu quelques-uns, mais les trois plus grands, c'est ce sportif, ce pilote de moto de la région de Nemours, Pascal Couturier. Forcément, celui qu'on appelle Monsieur Dakar, Stéphane Peter-Hansel, qui a gagné 6 fois en moto et 7 fois en automobile.
C'est beau.
mais le top du top, ça reste Mike, que j'ai commencé par lire ses livres, j'ai commencé par essayer de le connaître et puis le rencontrer. Et puis après une quinzaine d'années, je suis toujours aussi fan du mec, de la personne, de ses valeurs, de ce qu'il dégage. Et j'ai de la chance de pouvoir, en tout cas, faire quelques kilomètres à ses côtés. Et si ça peut continuer, ouais, tant mieux.
Ouais, c'est chouette, ça. Si le petit Cyril de 6 ans te regardait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait ?
Il me dirait, t'aurais pu te raser ce matin, parce que quand j'ai la glace juste à côté, là, pas loin du micro, je me dis, j'aurais peut-être pu faire un effort. Mais non, je sais pas. C'est difficile pour moi. J'ai vraiment, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je regarde vraiment trop loin devant et jamais trop derrière. En fait.
Ouais. C'est une question d'ailleurs qui m'a été inspirée par une connaissance commune qui est Antoine Vendrome.
Ah d'accord.
Tu devrais poser cette question à tes invités. Donc il sait pas que je t'interview aujourd'hui.
Ouais,
mais,
ouais. Ok, ok, ouais. Sacré Antoine.
Donc je rends hommage à Antoine qui adore d'ailleurs les sports mécaniques.
Ouais,
et parenthèse aussi, un merci à son cousin Loïc qui nous a mis en relation et Eric.
Bah écoute, non, c'était un plaisir.
Dernière petite question avant qu'on se quitte, à qui tu as envie de dire merci et pourquoi ?
Waouh. Je lui dis, je lui ai déjà dit merci. Il s'appelle Pat Kevor ou Patrick Kevorkian. Il est toujours gérant du magasin Challenge 75 dans le 11e. C'est pas un petit coup de pub, c'est juste que le mec est très simple, très humble, mais il m'a donné la possibilité de m'exprimer. C'était un crève-cœur pour lui quand
c'est ce que
je suis
j'allais
parti
dire,
du magasin.
Ouais, il a perdu son meilleur élément.
Il a perdu, ouais. Et à l'époque, il n'avait pas d'enfant. Donc, j'étais un peu son fils, j'étais son mécanicien, j'étais son chef d'atelier, j'étais un peu tout à la fois. Donc, on se revoit régulièrement, on s'est vu encore, on a mangé encore ensemble puisqu'il venait sur le Dakar. Ouais. Alors, plus pour faire de la compétition, mais pour suivre, pour déplacer un camion, pour participer. Mais ouais, je lui ai souvent dit merci, mais c'est un petit peu l'élément déclencheur. Et dans une vie comme ça de sportif où il faut être un peu autodidacte, il faut être un peu motivé, un peu fou peut-être pour aller dans des directions qui sont normalement pas faciles, pas automatiques, pas réalisables, mais il faut y croire. Et lui, il y a cru avant moi, quoi.
Ouais. Hier, quand on s'est vu, je te disais, j'admire ta femme parce que te voir partir sur les Dakar, et tu m'as dit, oui, mais c'est surtout ma maman qui.
Ah ouais, ma mère, quand je vois aujourd'hui ce que c'est dur d'habiter en Andorre, de voir ta fille qui fait une descente à ski au milieu du slalom et des piquets, et tu dis, je suis à l'arrivée, la course va durer 1 minute et demie.
J'arrive plus à respirer
ça
déjà.
Ça fait 4 minutes que mon cœur est en train de s'arrêter et je respire plus. Et je dis, mais comment ma mère a fait à l'époque pour me voir partir sur des courses de. C'est juste fou. Les premiers rallyes, les premiers Dakar, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de suivi sur le net. Elle recevait un fax tous les soirs, et puis voilà quoi. Donc, et toutes ces années, je me dis, ça l'a peut-être endurci ou ça l'a peut-être fait vieillir un peu plus vite, mais en tout cas, elle est toujours en forme. Et depuis que je suis passé en voiture, maintenant, elle est quand même rassurée.
Ouais,
elle sait qu'il y a quelqu'un à mon côté. Elle sait qu'il y a des harnais qui sont bien harnachés. Donc, non, elle est rassurée.
Elle est un peu plus sereine.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Cyril.
Ben, écoute, merci à toi. Pourquoi pas moi? Je pense que c'est une très bonne idée. Bravo à toi. Et je te souhaite beaucoup de succès dans cette année 2020 qui commence.
Ouais, merci. À très vite. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter Cyril. Saviez-vous que le 8 mars, c'est la journée de la femme ? À cette occasion, je vous ai préparé une semaine un petit peu spéciale avec 2 épisodes qui seront diffusés, comme d'habitude le jeudi, avec des femmes hors du commun. Je vous avais fait un autre teasing sur Instagram en vous montrant mon badge « Rendez-vous à l'Assemblée nationale ». J'ai eu l'honneur d'être accueillie par une députée exceptionnelle. Plus qu'une semaine de patience. En attendant, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Alors n'hésitez pas à mettre des étoiles, vous abonner ou me laisser un commentaire. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi. Ça a été
cool.
Ah.